Merci Père Céleste pour ce temps que nous avons pu prendre ensemble pour nous souvenir de la mort de Jésus, de sa résurrection. Maintenant encore, veuille nous conduire, Seigneur, dans le partage de ta parole. Veuille bénir aussi, Seigneur, les enfants dans ces temps de partage qu'ils ont. Seigneur, oui, que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas salués. Jésus s'en va. En passant, il voit un homme appelé Matthieu, assis au bureau des impôts. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se lève et il suit Jésus. Matthieu a écrit aussi l'histoire de Jésus, qu'on appelle l'Évangile. Et au verset 17 du premier chapitre de Matthieu, voilà ce qu'on lit. Voici le total. Il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. Là, on se dit, ah, Matthieu, il aurait dû faire prof de maths. Matthieu, prof de maths, c'est le thème que j'aimerais voir avec vous ce matin. Oui, il comptait l'argent, il calculait les pourcentages, hein, puisque ceux qui ne payaient pas tout de suite, ils avaient des petits suppléments à payer. Et il faisait ce travail en plus pour les Romains. Et Jésus vient et il va lui apprendre à compter autrement. Jésus lui a appris comment faire des additions. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Un petit peu bizarre, hein? Mais Jésus nous apprend ainsi à triompher du mal. Dans Romains 12, nous lisons « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Dans Matthieu 10, Jésus dit « Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Alors là, Matthieu, il a appris que pour Jésus, nous avons une grande valeur. Nous avons une grande valeur. Et d'ailleurs, Jésus continue et il dit « N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Vous comptez pour moi, même vos cheveux sont comptés. » Je ne sais pas, hein, il y a des gens qui connaissent vraiment leurs enfants sur le bout des doigts, mais je ne sais pas s'ils connaissent le nombre de cheveux. Oui, Dieu connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Il nous connaît parce que nous avons une grande valeur. Et il nous dit, n'ayez pas peur. Vous valez beaucoup plus que beaucoup de moineaux. Vous valez beaucoup pour moi. Et puis Jésus va apprendre la multiplication avec la parabole du semeur. Hein, une graine qui va donner 100 grains. Une graine qui va donner 60, une autre 30. La bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole, qui la comprennent, qui la prennent à l'intérieur d'eux et qui donnent des fruits. Et un peu plus loin, Jésus parle aussi du royaume des cieux qui ressemble à ceci. Une femme prend de la levure, la mélange à 25 kilos de farine et toute la pâte lève. Oui, Jésus a un message de multiplication. Sa parole est vivante. Sa parole transforme. Dans Hébreux, nous lisons que la parole est vivante et efficace. Elle agit. Dans Pierre, il nous a dit que c'est une semence incorruptible qui va produire des choses qui vont rester pour toujours. Et puis, bien sûr, nous pensons à cette foule qui a suivi Jésus dans un endroit désert. Le soir arrive, ils n'ont rien à manger. Alors là, c'est le moment de faire des mathématiques avec Jésus. Allez, 5 pains, 2 poissons, 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, 12 paniers de reste. Et puis on recommence dans Matthieu 15. 7 pains, des petits poissons, 4 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et 7 paniers pleins de reste. Voilà, c'est comme ça que Jésus fait des maths avec ses disciples. Et après, il leur reprend une fois sur la barque, il dit, vous vous rappelez là, il y avait combien de gens qui ont mangé? Il restait combien de paniers? Il fallait qu'ils se souviennent de ça, parce que Jésus leur a montré qu'il est le Créateur. Il est Dieu, il pourvoit. Dans Jean 1, il nous est dit, en parlant de la parole de Dieu, tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui, Dieu multiplie. Jésus multiplie. Il nous donne ce dont nous avons besoin. Il est le Créateur. Et il nous dit, n'ayez pas peur, vous valez vraiment beaucoup plus que juste quelques moineaux. D'ailleurs, Matthieu, il est un petit peu choqué quand il voit comment Jésus paye les impôts. Il y avait les impôts du temple, et puis il y a quelqu'un qui dit, est-ce que Jésus il paye les impôts? Alors Pierre, il dit, je sais pas, oui... Et puis il va voir Jésus et Jésus lui dit, prends une canne à pêche et va attraper un poisson. Dans la bouche du poisson, tu trouveras la somme pour toi et pour moi. Voilà comment Jésus paye les impôts. Mais Jésus surtout, il va apprendre à Matthieu à changer les valeurs. Ce qui est grand n'est pas toujours aussi grand qu'il paraît. Ce qui est petit peut aussi être très grand. Dans Matthieu 18, les disciples s'approchent de Jésus. Ils disent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rend humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Ce petit enfant, il a une valeur tellement grande. Il a la valeur de Jésus lui-même. Ok, ça marche pour les petits-enfants, ils sont mignons. Et puis, ils ont du potentiel. Alors, on va changer. On va prendre un pêcheur, un adulte qui fait que des bêtises, des grosses, et encore d'autres. Et Jésus apprend qu'un homme avait 100 moutons. Et l'un des moutons se perd. Alors il laisse les 99 moutons sur la montagne et il part chercher celle qui s'est perdue. Je vous le dis, c'est la vérité. S'il le trouve, il est tout joyeux pour ce mouton, beaucoup plus que pour les 99 qui ne se sont pas perdus. De la même façon, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Oui, Jésus change les valeurs. Et il nous le dit aussi pour la prière. Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous, on aime faire des grandes réunions de prière. On a l'impression que si on prie tous ensemble, ça va faire bouger le ciel et Dieu va agir. Il n'y a pas longtemps, j'étais à fond là-dedans. J'avais appris que le papa et le frère de Hassan étaient en prison en Iran à cause des reproches qu'on faisait à Hassan, alors qu'eux-mêmes n'avaient participé à rien du tout. On connaissait ça. On a aussi eu des otages quand les occupants attrapaient des gens et les punissaient à la place de quelqu'un d'autre qui n'avait pas obéi. Et alors je me suis dit, on va prier. On va prier. Donc j'ai fait un mail, j'ai envoyé à toute l'église pour qu'on se retrouve ici pour prier ensemble pour la famille de Hassan, pour que Dieu intervienne. Et quand je suis arrivé ici, il y avait Karine, à qui j'avais parlé, et puis il y avait Hassan, et il n'y avait personne de vous, parce que le mail n'est jamais parti. Je dis, mais ils sont où? C'est pas possible! C'était tellement important qu'on prie tous ensemble là. Dieu m'a rappelé, et David, c'est deux ou trois, c'est bon, je suis là aussi. Et donc on a prié à trois, et on attend que le Seigneur intervienne pour libérer le papa et le frère de Hassan. Oui, Jésus chamboule nos sens des valeurs. Et puis, un truc qui intéresse vraiment, vraiment Matthieu, c'est le remboursement des dettes. Alors ça, quand Jésus en a parlé, il l'a bien noté. Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? 7 fois. Et Jésus lui répond, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois. Là, ils ont un petit peu de mal à comprendre, les disciples. Ça veut dire quoi, 70 fois 7 fois, toutes les minutes, quoi, quasiment, ou quoi? Alors Jésus prend une parabole, il parle d'un roi qui règle ses comptes avec ses serviteurs, et bien sûr, il tombe sur l'escroc du siècle, qui lui doit des millions de pièces d'argent. Il ne peut pas rembourser. Et il demande au maître d'avoir pitié de lui. Et le maître est plein de pitié. Il supprime sa dette et le laisse partir. Alors là, Matthieu dit, ouais, ça c'est vraiment généreux. Il a noté les chiffres. Moi j'ai mis la traduction dit des millions, mais je crois que c'est 1,4 milliard si on le compare à la somme que je vous dirai tout à l'heure. 1,4 milliard d'euros. Et donc il sort, il rencontre un camarade de travail qui lui doit 100 pièces d'argent, 4 000 euros. Il le saisit, il lui serre le cou, il lui dit « rembourse ce que tu me dois ». Et son camarade se jette à ses pieds, le supplie « sois patient, je te rembourserai ». Mais le serviteur refuse, il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette de 4 000 euros. Et bien sûr, quand les autres serviteurs racontent tout triste ce qu'ils viennent de voir, le maître fait venir ce serviteur, lui dit « mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'en as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Et le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Il va rester longtemps. Et Jésus ajoute, « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. » Alors là, on tombe sur un problème de mathématiques qu'on arrive à résoudre déjà au collège. On appelle ça l'infini. Le pardon de Dieu est infini. Si on veut ajouter quelque chose à ce pardon, ça ne changera rien. Et souvent, on a fait une bêtise et on fait les tristes et on ne se pardonne pas nous-mêmes et on est malade, on se rend malade. Ça ne sert à rien. Vous pouvez pleurnicher autant que vous voulez sur vos péchés. Ils ont déjà été pardonnés par le prix que Jésus a payé, ce prix infini. Et si je prends l'infini et que j'enlève quelque chose, ça reste toujours l'infini. Donc si moi, je refuse de pardonner, ça ne changera rien pour Dieu, mais moi je m'exclus de cet infini. Je m'exclus en ne pardonnant pas aux autres. C'est ce que Jésus nous apprend. Il nous apprend dans la prière qu'on dit chaque jour, pour plusieurs d'entre nous, ou parfois de temps en temps, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus le met au cœur. Pardonner. Voilà. Donc là, les choses sont claires. On touche à l'infini. On ne fait pas de petits calculs les uns envers les autres. Jésus nous dit, on se pardonne entièrement. On pardonne et on laisse Dieu s'en occuper. Ce n'est plus à nous de porter cette chose. Parce que les gens disent, je pardonne, j'oublie pas, non, ils continuent de le porter. Non, laissons Jésus le prendre. Et puis Jésus, il inverse. En mathématiques, on a déjà vu qu'il changeait l'ordre de grandeur, mais là, les disciples disent, nous on a tout quitté pour te suivre. Et Jésus leur dit, je vous le dis, c'est la vérité, dans le monde nouveau, le Fils de l'homme sera assis sur son siège glorieux. Vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 sièges pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui ont quitté maison, frères, sœurs, père, mère, enfants ou champs à cause de moi, tous ceux-là recevront 100 fois plus. Et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours. Parmi ceux qui sont les premiers maintenant, beaucoup seront les derniers. Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Là, on inverse. C'était cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, j'ai lu un petit livre qui a été écrit par Harald Krauss, un Allemand, et qui raconte la vie d'Alfred Eder. Le titre du livre, c'est « Coupable ou innocent à Oradour ». Donc, c'est l'histoire d'un soldat allemand qui est arrivé à Oradour-sur-Glane. Quand ils sont arrivés, alors lui, il faisait partie des soldats, il n'était pas un SS, mais les SS avaient déjà commis beaucoup, beaucoup d'actes terribles dans ce village. Et quand son équipe et lui sont arrivés, on leur a demandé de rentrer dans l'église. d'Oradour, où il y avait les femmes, les enfants, les personnes âgées qui s'étaient réfugiées, et de tirer sur tout le monde. Et donc il est rentré dans cette église, et là, il a vu sa mère, qui était une croyante, qui n'était pas morte, hein, mais il l'a vue, et sa mère dit non, tu ne feras pas ça, tu ne tueras pas. Et il a refusé de tirer sur les gens. Bien sûr, l'officier a tout de suite vu qu'il ne tirait pas, donc il l'a engueulé, etc. Il a dit non, je ne ferai pas ça. Et puis, il a même menacé de son arme l'officier. Et puis ensuite, il a été arrêté, jugé pour non-obéissance aux ordres. Et il a été envoyé en camp de prison en Allemagne. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que il a été traité comme le dernier des hommes, parce qu'il n'a pas obéi. 30 ans plus tard, en Allemagne, quand il passait devant les tribunaux, parce qu'il n'a jamais réussi à se remettre de tout ça, donc il commettait des petits larcins, il était condamné, et chaque fois on lui rappelait « Vous n'avez pas obéi aux ordres à l'armée ». Il devenait fou quand on lui disait ça. Il sautait sur le juge, enfin bon... C'est un livre incroyable. Hein. Et cet homme a trouvé Jésus, je crois après 60 ans. Donc il avait l'âge de 60 ans. Il a trouvé Jésus et il a pu vraiment changer de vie. Mais il a toujours été le dernier. Il n'est jamais devenu un héros. Il n'a jamais été... pour nous, quand on entend son histoire, c'est un héros. Hein. Il est vraiment au-dessus de tous ces gens-là qui ont obéi à des ordres atroces, mais toute sa vie, il n'a eu que souffrance, maladie, prison, etc. Il était le dernier, mais je sais que pour Jésus, il était important. Et lui-même rend témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie et comment il est devenu enfant, enfant de Dieu. Oui, Jésus inverse les choses, mais nous, on ne le voit pas toujours. Hein, moi, ça me dit la prochaine fois que je verrai quelqu'un habillé ou qui vit comme un SDF, je me retiendrai de dire « Ah oh oui, il en est là parce qu'il n'a pas fait les bons choix, etc. » On n'en sait rien. Des fois, ce sont des gens qui sont des héros, qui sont bien au-dessus de notre morale à nous, mais qui se retrouvent, à cause de plein de situations, dans des grandes difficultés et tout en bas de la société. Oui, Jésus nous apprend que les premiers seront les derniers et les derniers seront le premier. Il nous l'apprend à travers une parabole qui fait toujours encore scandale. C'est la parabole des ouvriers. Hein, le maître qui va et qui dit, voilà, tu viens travailler dans ma vigne, tu vas travailler 12 heures et je te donne une pièce d'argent. Oh, super, du travail, des sous, et le gars va travailler. Et puis le maître, il ressort et puis il en trouve un autre là qui ne travaille pas. Il dit, mais vous n'avez pas trouvé de travail ? Alors ils disent non, on dit, allez, vous allez dans ma vigne, je vous donnerai quelque chose à la fin. Et puis ils continuent, et puis à la fin, il y en a qui sont là à 17h, hein, le travail finissait à 18h, et donc ils vont travailler pour une heure. Et après, c'est le moment de la paye. Et le maître fait venir celui qui a travaillé une heure et lui donne une pièce d'argent. Et quand les autres arrivent, ils disent, waouh, super. Si lui, il a travaillé une heure, il a une pièce, moi qui ai travaillé 12 heures, je vais me faire le pactole aujourd'hui. Et il reçoit aussi une pièce. Ah non, c'est pas possible, on a travaillé beaucoup, beaucoup plus. Hein. Et le propriétaire répond à ceux qui rouspètent, « Mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. » Tu étais bien d'accord avec moi pour recevoir une pièce d'argent pour la journée. Prends ton salaire et va-t'en. Je veux donner à cet ouvrier arrivé en dernier autant qu'à toi. J'ai le droit de faire ce que je veux avec mon argent, n'est-ce pas? Est-ce que tes pensées sont mauvaises parce que je suis bon? Et Jésus ajoute, ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est dur, hein? Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Oui, Jésus, il inverse notre façon de compter à cause de la grâce. C'est un cadeau, c'est gratuit. C'est un don de Dieu, ça ne vient pas de nous. C'est difficile à comprendre, hein? Et pourtant, hein, c'est ce que Jésus essaye d'enseigner à ses disciples. Et puis Jésus va aussi parler d'investissement. Alors là, Matthieu, ça l'intéresse, hein, les investissements, le pourcentage, ça c'est super. Et donc Jésus, dans Matthieu 25, nous parle d'un homme qui part en voyage, qui appelle ses serviteurs, qui leur confie ses richesses. À chacun selon ce qu'il peut faire, il donne 500 pièces d'or à l'un, 200 au troisième, 200 au deuxième et 100 au troisième. Et il part. Et donc celui qui a eu 500, il va tout de suite réinvestir cet argent et il va encore gagner 500 de plus. Celui qui a 200 va aussi se mettre au travail et il va aussi gagner 200 pièces d'or en plus. Et celui qui a reçu 100 pièces d'or, lui, il va faire un trou dans la terre. Il cache l'argent et longtemps après, quand le maître revient, il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Et donc celui qui a reçu 500 pièces d'or s'approche, il présente les 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces ». En voici 500 autres que j'ai gagnés. Et son maître lui dit, c'est bien, tu es un bon et fidèle. Tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. Pareil hein, pour celui qui avait les 200 pièces. Et on arrive à celui qui avait 100 pièces d'or. Il s'approche et il dit, maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu amasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur, je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre, les voici. Tu as ton argent. Et son maître lui répond, tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé. Je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or, donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Voilà. Un texte sur l'investissement. Et Jésus, il a très souvent parlé de cet investissement. Au chapitre 13, il avait déjà dit, « En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. » Ça, c'est un principe dans le royaume de Dieu. Si on écoute le Seigneur, il nous donne beaucoup plus. Si on n'écoute pas, on perd le peu qu'on a. C'est vraiment un principe que Jésus reprend et il dit, c'est pour ça que je parle en parabole, parce que ces gens, en fait, ça ne les intéresse pas. Ils veulent les miracles, ils veulent la multiplication des pains, ils veulent la guérison. Mais le reste, non merci. Alors que vous, vous voulez savoir. Vous me demandez, mais c'est quoi cette parabole? Qu'est-ce qu'elle signifie? Alors je vous donne encore plus. Je donne à celui qui a accepté, je lui donne. Mais celui qui n'a pas accepté, on va même lui enlever le peu. Les oiseaux viennent même enlever l'évangile qui a été prêché à ceux qui ne l'ont pas reçu dans leur cœur. Et après, ils ne se souviennent même plus. Mais le gars m'a parlé de Jésus, mais je ne sais même pas qui c'est. Alors que le gars, il a tout expliqué. Il a fait tout le déroulé. Les quatre points de l'évangile. Mais non. C'est rentré, c'est ressorti. Oui, c'est un principe du royaume de Dieu. Alors, pour terminer, Jésus a été vendu 3 fois. Vous le saviez, ça? Je trouvais ça dans Matthieu. Dans Matthieu 26, l'un des 12, Judas Iscariote, va voir les chefs des prêtres et leur dit « Qu'est-ce que vous voulez me donner si je vous livre Jésus ?» Et les chefs des prêtres lui donnent 30 pièces d'argent. Dans le même chapitre 26, au verset 33, Pierre dit à Jésus « Tous les autres t'abandonneront peut-être, mais moi je ne t'abandonnerai jamais. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis, c'est la vérité. Cette nuit, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » On peut dire que Pierre a vendu son maître. Non, celui-là, je ne sais pas qui c'est, jamais entendu parler. Tout ça pour se chauffer auprès du feu. Et puis, dans Matthieu 28... les soldats qui ont vu un ange qui descend du ciel, qui roule la pierre, qui ne bougeait plus, ils étaient paralysés. Et donc les femmes qui ont vu tout cela, qui ont entendu la bonne nouvelle, sont parties. Et pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville. Ils annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats, avec cette consigne, « Dites que ses disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues, et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Cette bonne nouvelle de la résurrection, encore une fois, avec l'argent, on achète le silence. C'est comme si on vendait encore une fois, une troisième fois Jésus. Et pour conclure, j'aimerais revenir sur ce Jésus qui a été vendu, renié. Il l'a été pour nous racheter. 1 Pierre 1, verset 18, « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » Oui, Jésus a été vendu pour nous racheter. Pour nous racheter par son sang, il rachète chacun d'entre nous. Il nous rachète de la manière de vivre dépourvue de sens que nous avons hérité en tant qu'humains. Ce n'est pas que nos parents, grands-parents étaient pires que les autres. On est tous pareils. Et c'est pour ça que le sang précieux de Christ a été versé pour nous racheter. Et là, on touche de nouveau à l'infini. Ce sang nous purifie de tout péché. D'autres traductions disent de chaque péché. Amen. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons apprendre à compter avec toi, à voir, Seigneur, avec toi. Et aussi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour le prix que tu as payé pour nous. Seigneur, oui, dirige nos cœurs vers toi. Merci de bénir encore ce jour. En ton nom. Amen.